Et vous écoutez France Culture. De même que le prince Bismarck trouve une différence morale entre les races mâles et femelles de l'histoire, je soupçonne l'existence d'un tempérament physique mixte obtenu par les multiples et subtiles influences rassemblées dans le mot « climat ». Richard Burton, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui est heureux d'accueillir en ce samedi de Gay Pride l'un des acteurs les plus charismatiques et les plus érudits de la scène homosexuelle française, Patrick Cardon. Universitaire, militant, associatif, animateur de festivals et historien, il veille depuis près de 30 ans aux destinées de l'association Gay Kitsch Camp. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui sera le dernier de cette saison, une saison que nous vous remercions d'avoir suivi et qui vit notamment la célébration de nos 20 ans. Et j'accueille Patrick Cardon qui a toujours 20 ans lui.
Bon anniversaire à vous. Merci, bon anniversaire Patrick. À moi. Oui,
c'est
non,
aujourd'hui d'ailleurs votre anniversaire.
Oui, moi c'est les chiffres infernaux qui commencent maintenant.
Oui, alors quels sont les anniversaires on se samedi, Patrick Cardon, c'est les 30 ans de Gay Kitsch Camp.
Oui, ou... les 30 ans de Gay Kitsch Camp et puis les 76... Oh, mais je ne dois pas dire ça. Ah, si. Voilà. Bon, 6 ans de Patrick Cardon.
Voilà, bah écoutez, bon anniversaire et bienvenue donc à Mauvais Genre.
Je vous remercie, pareillement.
Je serai avec Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Comment va-t-elle?
Je vais fort bien, je vous remercie.
Alors ce soir, on a un peu changé la structure de l'émission. Nous n'aurons pas d'encyclopédie pratique des mauvais genres, non. Mais vous serez là pour questionner et interroger Patrick Cardon autour des richesses surprenantes de son catalogue.
Sans avocat.
Il y a également Christophe Beer.
Bonsoir François.
Comment va-t-il?
Très bien.
Voilà, Christophe Beer, pareillement, eh bien, ne fera pas la chronique de clôture, mais sera présent tout au long de l'émission, là aussi pour voir et complimenter Patrick Cardon et pour lire un extrait d'un de ses textes les plus étonnants, les Fellah Torres. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. Donc, notre invité en ce samedi de Gay Pride, eh bien, c'est Patrick Cardon, je le répète, l'animateur de l'association Gay Kitsch Camp.
Punks like you just blow my mind. You're all just one of a kind, going nowhere real fast. Hey, punk, get off the grass. Who in the hell do you think you are? I'm queen of punk and you better know who you really are. Going nowhere real fast. Hey, punk, get off the grass.
Alors Patrick Cardon, Gay Kitsch Camp, trois mots qui nous sont chers à mauvais genre, puisqu'il résume un peu aussi notre philosophie de la culture de genre, en tout cas une grande partie. On va d'abord, si vous le voulez bien, faire un peu l'état de votre parcours. Qui êtes-vous, Patrick Cardon?
L'état du parcours
de Patrick Cardon, voilà. L'homme de Tourcoing.
Vous voulez vraiment que je dise que je suis fils d'un épicier?
Ben c'est vrai. Voilà, absolument.
Non, fils d'un comment?
Que les auditeurs
un estaminé. Découvrent.
Un estaminet.
Oui, mon père tenait un estaminet à Tourcoing, il était marqué estaminet.
Quelle est la différence entre un bistrot et un estaminet?
Aucune idée, je pense que c'est un bistrot c'est plus, du Nord.
C'est plus beau, estaminet.
Ah oui. Et c'était du nom d'un saint, le saint des métallurgistes, quelque chose comme Saint-Éloi. Je m'en souviens.
C'était à Tourcoing.
Ne me faites pas retourner en enfance, s'il vous plaît, merci.
Non, bah, peut-être un peu à l'université, vous avez fait vos études à
Aix. Un petit peu, oui, Aix-en-Provence, j'adore, oui.
Voilà, avant d'entrer en 1972 au Phare.
Oui. Enfin, entrer, vous savez.
Est-ce
on
qu'on
était sur une
au
pelouse et puis on papotait et puis on se réunissait dans une salle. C'est quand j'ai vu ça à l'entrée des gazelles que je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Bon, en fait, je bandais devant une inscription.
Oui.
Fou, hein.
Terrible. Ouais. Vous y restez jusqu'en 1975. Alors, quelles a été un peu les raisons de votre
ou
votre
ça, au
départ
phare ou à Aix-en-Provence,
au Phare, en Aix-en-Provence, ça a duré plus longtemps.
Ah oui, bah c'est le Phare lui-même qui s'est délité.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de révolution. Pendant toutes ces années-là, quand même, c'était à chaque fois... Enfin, c'était l'esprit 68, qu'il y avait des manifestations tous les ans, tous les mois. L'été sera chaud. Bon, maintenant, c'est plus au futur.
En 1976, vous entrez au GLH. Qu'est-ce que c'est, le GLH?
Ben oui, en fin de compte, les personnes... Ben moi, je suis toujours resté dans toutes les associations. Après, les personnes changeaient. Et le GLH, c'était le groupe de libération homosexuelle. Bon, c'est un peu ce qu'on appelle maintenant la normalisation des gays. C'est-à-dire, en fait, le phare, c'était révolutionnaire avec l'extrême gauche. Le groupe de libération homosexuelle, c'est commence à devenir un mouvement identitaire. C'est-à-dire, un mouvement qui préfère s'occuper de soi-même, puisque les autres ne veulent pas s'en occuper.
Et en 1979, alors là, vous êtes au plein de votre inspiration puisque vous créez le mouvement folle lesbienne.
C'est fou, ça.
Le MFL.
Alors, je me redis complètement.
Mouvement folle lesbienne. Ouais. Alors ça, c'est intéressant parce que le mot folle apparaît, qui est plutôt assez rare, assez inusité.
De plus en plus encore maintenant.
Voilà. Et pourquoi
à l'époque,
alors,
non. Hein.
Pourquoi ce mouvement folle lesbienne?
Parce que, je sais pas, j'allais dire bêtement, mais bon, on était féministes. Enfin, moi, j'étais surtout féministe. Donc, je dis bêtement parce que les hommes féministes, c'est pas pareil que les femmes féministes. Je veux dire, à la limite, qui se mêlent de leurs affaires. Mais moi, j'étais folle et donc j'étais féministe. En fait, j'ai transformé le mot, il paraît que j'en suis l'inventeur, efféministe. Voilà.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire, efféministe?
On défend les personnes efféminées, ce que j'appelle maintenant les personnes transgenres, c'est-à-dire les hommes qui ont plutôt des caractères dits féminins. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des caractères féminins?
Enfin, pas grand-chose. Homme ou femme, en fait.
Comment?
Homme ou femme.
Pour moi, c'est ce que j'aime bien,
oui,
c'est-à-dire
oui.
Femme masculine et homme féminin. Mais si on dit efféministe, c'est forcément la défense des femmes, mais ça peut être aussi en double ou en triple, c'est-à-dire une femme qui désire avoir des caractères masculins, mais qui veut garder certains caractères féminins. Je me rappelle d'une femme qui me disait, Patrick, ça y est, je suis un homme maintenant, donc si tu pouvais me respecter et me nommer Pascal. Elle s'appelait Pascal, il s'appelait Pascal. Je dis, écoute, moi c'est un problème parce que je féminise tous les noms masculins. Est-ce que tu veux bien qu'on soit folle ensemble? Elle m'a dit, dans ce cas-là, oui.
Céline Duchesnay.
Bah non, je ne connaissais pas, moi, ce terme de déféministe que je trouve fort joli. Mais alors, est-ce qu'il y aurait l'équivalent masculin? Est-ce qu'un autre mouvement pourrait exister de ce genre-là? Je ne sais pas.
Je pense qu'il faut demander à Sam Boursier, là.
Non, mais en fait,
les trajectoires sont différentes.
En fait, aujourd'hui, c'est le terme de transgenre que vous...
Oui, parce que je trouve que c'est plus global. Et
voilà,
à mon âge, vous voyez, on commence à pacifier. Donc, je pense
pacifier, pas si sûr que ça, puisque... ce terme de transgenre que vous revendiquez, la façon dont vous le concevez, reste plutôt révolutionnaire dans la mesure.
Ça me fait plaisir, ça, pourquoi pas.
Il me semble. Non, c'est un terme qui englobe tous les possibles,
oui.
Alors que nous sommes dans une période, comme vous le dites dans beaucoup de vos écrits, où les choses ont tendance à se compartimenter, avec des revendications. En fait, c'est une addition de... Une addition de revendications ou de
oui,
nature,
LGBT,
voilà.
QIA, etc.
Après, à chaque année, on a un plus supplémentaire dans
vous avez vu, j'ai ajouté un M pour marocain.
Ah oui, on les avait oubliés. Alors que transgenre, c'est un terme pour vous qui engloberait tout. Absolument tout,
oui,
toutes les possibilités. Il n'y aurait plus de frontières entre les sexes, entre les genres. Tout ça éclaterait un peu.
Ah non, mais tout le monde serait reconnu. C'est-à-dire que si tout le monde se reconnaît comme transgenre, ça veut dire qu'il fait partie d'une communauté qui est ouverte à toutes les diversités. C'est dans ce sens-là.
Oui, donc
pas dans un sens d'opposition qui serait...
Voilà.
Moi, la révolution, c'est un truc d'opposition. Et le problème pour moi, c'est qu'on s'oppose tellement qu'on finit par devenir la chose à laquelle on s'oppose.
Alors ensuite, après cette période de mouvement folle lesbienne, Patrick Cardon, vous êtes candidat à la mairie d'Aix. Vous pouvez dire quelques mots sur quelle liste, une liste que vous avez créée vous-même, selon quel axe de revendication
En 77, oui. Alors, j'avais été invité par le préfet qui me disait, Monsieur Cardon, c'est un détournement de fonds publics parce que vous allez utiliser les panneaux et que sur votre liste, il y a Jacob Delafont. On considère que c'est un peu fantaisiste. C'était les constructeurs de Pissotière à l'époque. Et puis aussi, je m'étais trompé sur quelle date et quelques lieux de personnes qui étaient là. Donc c'était effectivement fictif. Et dans le Provençal, on disait, puisqu'il fallait 43 candidats, le Provençal était content, le Provençal, le journal de là-bas, qui est devenu la Provence, je crois, qui titrait l'un dans l'autre, ils seront bien 43 ou 41, je ne sais plus exactement. L'un dans l'autre, voilà. J'aime bien ça, les hétéros. Oui.
Après quelques années d'enseignement en Afrique du Nord, vous retournez à Lille, et là, on s'approche de ce qui nous rassemble aujourd'hui, en 1988-89. C'est donc la création de Gekitsch Camp. Alors, première
question. Mais là, vous oubliez quelque chose quand même.
Ah, qu'est-ce que
vous
oubliez?
Parce que 77, c'est des élections, disons, de provocation.
Oui, il y a eu les
qui ont fait que partout dans le monde, on a su qu'il y avait, ce qui existait parce qu'on avait eu une interview par l'AFP. Mais en 81, il y a eu les municipales. Ah oui. Et c'était important, parce qu'ensuite Mitterrand, enfin c'était une autre génération, et en 81, j'ai eu quand même une vraie candidature aux législatives, 0,94% des voix au centre-ville, c'est pas rien. Excusez-moi de faire l'autopsie.
Alors c'est vrai qu'on aurait eu tort de rater pareil événement et pareille performance démocratique. Je reviens donc en 88-89, c'est la fondation donc de Gekitsch Camp. Alors on peut avoir quelques lumières sur l'origine du nom et pourquoi la fusion entre ces trois... mot précieux.
Oui, je devais passer mon temps à essayer d'avoir un boulot, de passer un CAPES, et donc je fréquentais la bibliothèque de Lille, la bibliothèque universitaire, et puis à chaque fois je m'arrêtais sur des choses homosexuelles, il fallait toujours que je cherche des documents homosexuels. Ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs, pour le CAPES pas tellement. Et je vois une affiche d'une exposition à Anvers sur le Kitsch et le Camp, une exposition artistique. Moi je disais, j'en ai marre de ces histoires, c'est comme en France, je veux dire, le grand placard en France, c'est les lettres françaises, les romanciers, etc. Pourquoi on n'ajouterait pas le mot gay, tout simplement, pour être, pas pour être frontal, mais pour dire, voilà, ça concerne aussi les gays, et puis c'est pas la peine de se cacher non plus. Voilà. C'est idiot, cette histoire de visibilité. Quelquefois, je m'en veux. Puis, quelquefois... Enfin, beaucoup de gens me disent, non, c'est bien d'être frontal aussi. On le paye fort. Alors, Gekitsch Camp, vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire?
Oui.
Bah, au départ, quand vous voulez être camp, donc avec un humour un peu folle. Donc, gay, c'était sans commentaire, puisque ça voulait dire pédé, bon, c'est ce que je dis. Kitsch, les vieilles choses qu'on aime bien, donc c'est le temps qui passe. Et puis, kitsch, oui. Et pour le camp, c'est le temps qu'il fait. Bon, ça, c'était une réponse humoristique. Mais donc, gay, c'est pour la sensibilité homosexuelle. Kitsch, c'est parce qu'on aime bien l'histoire. Et camp, parce qu'on voudrait avoir un peu d'humour en traitant l'histoire.
Et à partir de là, donc, vous mettez en route une véritable campagne de documentation, d'érudition et de publication, en allant au-devant d'une mémoire qui, à l'époque, n'était pas du tout fouillée, travaillée et publiée.
Non, on avait fait venir quand même, ça s'appelait pas Gekitsch Camp, mais on avait fait venir Dominique Fernandez, qui était quand même un des premiers à allier culture et militantisme homosexuel.
Et Roger Perfit.
Oui, mais ben je l'avais fait venir d'ailleurs, parce qu'on avait commencé un festival de films.
Bon, on va en parler là, oui.
Oui, et donc le pauvre, je dis le pauvre parce que vraiment il traînait des pieds à la gare, et c'est un peu comme vous et moi, pas si.
Oui, parce qu'il y avait quand même des figures qui revendiquaient à la fois, je dirais, une image littéraire, culturelle, institutionnelle presque, et l'homosexualité. Je me souviens d'un célèbre débat des dossiers de l'écran sur l'homosexualité. Je pense que le film qui illustrait la soirée avant le débat devait être Les Amitiés Particulières de Delannoy.
Clairement, Jameau.
Voilà, et donc il y avait Jean-Louis Borry, oui. Yves Navarre, oui. Et Roger Perfit. Donc ouais. Il y avait quand même des figures emblématiques.
Oui,
vous vouliez peut-être sortir de ces figures emblématiques, c'est un peu trop facile d'emblématiser l'univers homosexuel au travers de trois figures comme ça. Vous vouliez peut-être le faire circuler.
Non, pas du tout. Pour moi, il faisait partie de ma formation. J'étais jeune à l'époque, et donc... Non, et puis on parlait beaucoup de pédérastie aussi, plus que d'homosexualité. Non, ça m'a beaucoup interrogé, et on va dire que ce pas des ancêtres, simplement... Ils m'ont beaucoup appris et moi j'ai voulu approfondir la chose.
Et de 1991 à 2005, c'est le festival Question de genre, donc oui. À Lille.
Oui.
Qui est un festival de cinéma. Et là, quelle programmation proposez-vous?
Ben, quelquefois c'était inconscient, puis je commence à être de plus en plus conscient de ce que j'ai fait. Mais parce que pour moi c'était tellement passionné que j'avais pas vraiment beaucoup de recul. Et depuis le début, en fait, ce qui m'intéressait, c'était le patrimoine LGBT. La première affiche d'ailleurs de ce festival de films, je pense que c'était, personne ne l'a dit, moi-même je ne savais pas que c'était l'auteur, c'était un artiste proche de Hitler, les formes masculines, etc. Je ne me rappelle plus.
Arnaud Brecker
Peut-être, c'était un lanceur de javelot. Bon, enfin, bon, ça n'a pas été, on n'a pas posé la question. Mais donc, et tout de suite, il y a eu Perfit qui est venu. Donc, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était comment dire. Peut-être que je m'interroge, bon, enfin, je sais pas pourquoi je vais faire de la psychanalyse quand je vous vois comme ça, sur la naissance de l'homosexualité, ce qui veut pas dire grand chose. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le patrimoine LGBT. Je vais revenir là-dessus.
Justement, j'ai noté une citation dans un entretien. La recherche de documents est une sexualité comme une autre, même si très minoritaire. Je dis sexualité parce que c'est un désir, un plaisir, une obsession, une addiction.
C'est pas dans l'acronyme LGBTQIA non plus,
ça nous parle beaucoup ici, parce qu'on est aussi passionné de culture, de recherche, et c'est au fond la chose qui vous guide depuis toutes ces années. Mmh.
Puis c'est infini, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des successeurs, si vous continuez aussi, c'est bien, franchement, parce qu'on cherche un livre, on en trouve 1000. Hein.
Oui,
Céline. Alors justement, comment est-ce que vous trouvez tous ces livres ? Est-ce que vous avez une période historique de prédilection, ou alors est-ce que c'est en cherchant un livre qui en amène un autre,
oui,
etc.
Oui, c'est surtout en cherchant un livre qui en amène un autre, c'est-à-dire, bon, surtout les livres d'essais. Moi, je suis plutôt documentariste, on va dire, ou
documentaliste aussi,
archiviste.
Oui. Disons que même si je lis un roman ou que je regarde une œuvre artistique, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'épaisseur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière, et s'il n'y a rien derrière, c'est pas grave. Mais
vous avez quand même une période de prédilection qui est celle de la fin de siècle.
C'est la fin
parce
du 19e.
En fait, c'est la période où les folles sont les plus visibles.
Bah, donc, oui, c'est clair.
Donc, votre goût s'oriente davantage vers cette période-là.
Oui, tout à fait.
C'est beaucoup de ces livres réédités dans votre collection.
Laissez parler Céline, en fait.
Mais oui, bien sûr.
Je laisse Céline la Duchel parole à Céline.
Maintenant, j'allais couper la parole à mon camarade Hirsch, ce qui ne se fait pas. Donc, j'ai été impolie. Non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez tendance à rééditer des ouvrages qui ont déjà été édités jusqu'à maintenant, ou alors est-ce que vraiment vous avez même retrouvé des manuscrits? Est-ce que vous avez trouvé des livres qui n'avaient jamais trouvé d'éditeur à l'époque?
Les Lesbiennes de Berlin, par exemple, c'est une traduction. On fait quelques traductions. Bentham, Essai sur la pédérastie, on n'est plus dans le 18e. Mais c'est une traduction aussi. La zone sotadique, c'est une traduction aussi. Hein. Donc,
Oui, les faits La Torres ont été publiés en 1888 et n'avaient jamais été réédités.
On va parler de tous ces titres donc tout au long donc de l'émission Mauvais Genre reçoit ce soir, donc pour la dernière émission de la saison, Patrick Cardon, animateur de l'association Gay Kitsch Camp. I know everybody's got the fever here. I can just tell it. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, oh, Daddy, I get a fever that's just too hard to bear. Fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning and, oh, Daddy, fever all through the night. Up the daytime, moon lights up the night. Fever isn't a new thing. Fever happened a long time ago. Fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Oh.
Alors Patrick Cardon, l'association maison d'édition Gay Kitsch Camp s'est spécialisée donc dans des publications méconnues, voire totalement inconnues, liées à l'homosexualité, avec d'abord des textes assez, alors là du coup très très rares, qui sont des textes, pourrait-on dire, théoriques, c'est-à-dire à la fois des textes historiques, législatifs, philosophiques et sociologiques sur l'homosexualité. Donc il y avait chez vous au départ la volonté d'aller chercher, je dirais, de reconstituer peut-être la proto-histoire d'une réflexion sur la figure de l'homosexuel et l'homosexualité.
Proto-histoire, le bon mot.
Alors quel texte, par exemple, avez-vous trouvé ? Et publié ?
Le premier livre, parce que les premiers livres, c'était des photocopies. Même les couvertures, c'était des photocopies. Et donc, on appelait ça autrement d'un terme scientifique pour faire chic. Mais bon, c'était mon premier texte, c'était Les Enfants de Sodome à l'Assemblée nationale.
Les Enfants de Sodome à l'Assemblée nationale.
On avait ici un pamphlet, comme genre littéraire. on avait un questionnement. Est-ce que c'était vraiment une revendication homosexuelle? Sodomite, puisqu'à l'époque c'était des sodomites. Et il y a eu plusieurs pamphlets là-dessus. Donc on avait un pamphlet, c'était pendant les troubles, 1790-91, qu'ils ont été publiés. Et en fait, peut-être qu'ils ont été, comment dire, mis en scène sur les parvis des églises. Enfin, comme c'est des dialogues, c'était possible que c'était du théâtre. Mais quand même, ils revendiquaient le droit d'être traités comme les autres quand ils étaient malades, pour une maladie qu'ils appelaient la cristalline. Et puis demander à faire des réunions comme les putains le faisaient. Enfin, ils inventaient ça. Peut-être que c'était vrai aussi. Et ils voulaient être représentés à l'Assemblée nationale. Et il y avait des gens qui étaient considérés comme des chefs de file déjà, comme le marquis de Villette, qu'on appelait les carrosses qui s'ouvraient par derrière, les carrosses à la Villette. Enfin, il y avait plein de jeux de mots là-dessus. Et c'était accompagné aussi d'une femme qui était son amie, qui était Mademoiselle Raucourt, peut-être une maîtresse de Marie-Antoinette, et qui était considérée comme la chef de file des lesbiennes. Donc, ça faisait un ensemble de pamphlets qu'on a fini par réunir dans une édition plus importante, qui s'appelle « Les enfants de Sodome » à l'Assemblée nationale.
Alors, ce sont des textes de 1790, mais 5 ans avant, vous les citiez, en 1785, Jérémy Bentham, donc l'inventeur du panopticon, c'est-à-dire ces prisons qui permettent de pouvoir, de manière périscopique, jeter un œil en permanence sur la totalité des détenus, lui aussi publie un essai sur la pédérastie. Alors, comment, je dirais, la société anglaise de la fin du 18e, qui est une société quand même extrêmement en plein essor industriel, en pleine avec la naissance des workhouses, avec une contrôle de la pauvreté, une contrôle du prolétariat, une volonté un peu de cadrer à la fois religieuse et capitaliste, de cadrer la société. Comment Bentham, lui, voit-il la pédérastie?
Bah lui, c'est un philosophe utilitariste, donc en fait, il considère qu'il n'y a pas de morale à avoir sur les comportements des personnes, et que si les sodomites ne gênaient personne, c'est-à-dire on voit vraiment pas pourquoi on les mettrait en prison, ou même qu'on les traiterait de malades ou quoi que ce soit. Ça, c'est la chose fondamentale. Ce qu'il y a, ce que je ne comprends pas, c'est que Foucault, qui a pris pour base justement le panopticon pour une étude sur la prison, sur l'emprisonnement, n'a jamais parlé d'essai sur la pédérastie alors qu'il avait été publié avant qu'il meure aux États-Unis.
Christophe Beer.
Mais il y a aussi alors là je fais un saut dans le temps, tout le travail que vous avez fait sur Marc-André Rafalovitch. Oui, qui avait publié un certain nombre de textes dans la revue d'anthropologie criminelle.
Les archives d'anthropologie criminelle, oui.
Et qui donc serait le premier à avoir utilisé en fait le terme d'homosexuel.
Oui.
Donc
en
ça,
1897.
J'étais étonné. Ce terme est donc si récent en fait.
Je sais pas, 1897. Oui. Enfin, il avait été utilisé en allemand, mais bon, en allemand, donc c'était pas homosexuel. Mm-hmm. Kurt Benny, un Hongrois, quelques dizaines d'années auparavant.
Mais Rafalovitch, quelle est la particularité? Parce que dans cette revue de la Cassagne, on s'attend peut-être à une criminalisation de l'homosexualité ou une façon de la stigmatiser. Et lui, c'est plutôt le contre-pied. C'est quelqu'un qui défend l'idée d'une sexualité homosexuelle.
Ben, c'est-à-dire que lui, il utilise le mot homosexuel pour le contrer sur le mot hétérosexuel. Et là, il l'a utilisé aussi pour la première fois, le mot hétérosexuel. L'important pour lui, parce qu'il n'est pas pour... il n'aime pas le militantisme de Hirschfeld, par exemple, en Allemagne. Il n'est pas... C'est quelqu'un de plutôt discret. Mais en même temps, il veut simplement... Puis c'est quand même quelqu'un qui va quasiment se marier avec son ami, qui va lui confier une église. C'est quand même une église, je pense que c'est protestant, je suis pas sûr. Bon, et ce qui est important, c'est qu'il veut mettre au même niveau, déjà ça c'est important, homosexuel et hétérosexuel, des mots qu'il invente, mais pour leur dire, ne soyez pas débauchés. On peut pas dire aux homosexuels, arrêtez d'être débauchés, c'est-à-dire de baiser entre vous, en fin de compte, puisque les hétérosexuels le font. Voilà, c'était... Il voulait, comment dire, on va dire évangéliser.
Mais quelle était sa vision de l'homosexualité? C'est une vision ouverte, c'est-à-dire que parce que publié quand même dans les archives de sciences criminelles, ça situe quand même la nature du propos. C'est quand même une vision de l'homosexualité comme un délit et susceptible de procès pénaux.
Oui, mais la caractéristique du docteur Lacassin qui était responsable de cette revue. Hein, puisque bizarrement, c'est drôle comme titre archive d'anthropologie criminelle.
Bah voilà, ouais. Hein.
Mais bon, c'était une revue mensuelle. Et on avait à côté, mais d'une manière complètement frontalement homosexuelle, les Yarbours du docteur Hirschfeld en Allemagne. Et lui, voulait faire la même chose, mais à l'intérieur des archives d'anthropologie criminelle. Et le docteur Lacassagne, lui, s'opposait à Lombroso, un criminaliste aussi, un anthropologue criminaliste. D'Italie, qui, lui, était quand même quelqu'un qui, un déterministe, qui considérait que si vous aviez une certaine gueule, eh bien, vous avez les punitions de votre gueule. Comment ça s'appelle?
Oui,
physionomiste.
Il était.
Le criminel arbore les signes de sa criminalité.
Voilà, c'est ça.
Donc il y aurait pour l'homosexuel.
Alors que Lacassagne, pas du tout. Voilà. Il dit que le criminel, c'est le produit de la société. Donc c'était de la sociologie, c'était de la socio-anthropologie. Donc on n'est plus du tout dans la médicalisation là. On est même Hirschfeld considérait que lui il était invité dans des procès et il disait mais ce n'est pas un criminel puisque c'est un malade. Même Hirschfeld disait ça.
Oui, j'aimerais revenir sur ce terme d'homosexuel qui est un terme qui est resté dans un domaine médical, je crois, pendant un long moment. Je pense par exemple au livre que vous avez publié, le livre de Willy, Le Troisième Sexe, et j'ai fait une petite liste non exhaustive de tous les termes qui sont utilisés pour parler de l'homosexuel. Alors il y a le pédoc, l'uraniste, ces messieurs dames, pédéraste, qui est quand même très très utilisé, inverti, et évidemment pédéro, le tataïsme aussi que je ne connaissais pas, et donc ce terme d'homosexuel, je ne crois pas qu'il apparaisse, ou alors il apparaît très rarement, en tout cas, dans cette sommité que Willy a écrit en 1927 sur la question, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, sur la question homosexuelle ou sur l'homosexualité et la société.
Patrick Cardon.
Moi, je pense que le mot homosexuel a été créé pour défendre devant les tribunaux et dans l'idéologie de l'époque des personnes, mais qu'entre eux, ou non, parce que Willy, c'est un littéraire, et c'est un pamphlétaire aussi. Et donc, les gens utilisaient entre eux plutôt de préférence le mot pédérastie. Je sais pas, on l'utilise là dans Willy, pédérastie, oui. Dans la liste que vous avez?
Oui.
Pédérastie inverti. Mais qui avait des sens un peu différents. Par exemple, inverti, donc ça vient de inversion. Inversion des genres et inversion aussi d'objets sexuels. C'est-à-dire, si vous êtes un homme et que vous désirez un homme, alors que vous devriez, pour la norme, désirer la personne de sexe opposé, à ce moment-là, c'est votre désir qui est inverti. Maintenant, si vous vous habillez en femme, c'est vous qui êtes inverti.
Alors quand est-ce que ce mot homosexuel devient un petit peu plus général dans son sens?
Bizarrement, ce sera avec les groupes de libération homosexuelle, on va dire, à partir du moment où l'homosexualité s'affirme, ce sera le mot homosexuel qui sera après le mot pédéraste, hein, qui sera affiché.
Dans les années
60-70.
Hein. Au moment de l'Opéra Horizon publiait La question homosexuelle. Oui. Voilà, donc c'est à peu près à ce moment-là que la question s'est...
Où le mot va être popularisé, on va dire.
Et le mot uranien.
Homo, PD.
Uranien. Vous pouvez nous expliquer un petit peu.
Rafaelovitch.
Le choix du mot uranien.
C'est
uranien,
la déesse. Parce qu'il y a eu un mouvement littéraire en Angleterre qui s'appelait Uranus, je crois. C'était pas un jeu de mots, parce que c'était une question de planète, une question d'amour céleste. Voilà, c'est pas chinois, hein. Ou d'amour terrestre. Et on considérait que les amours normaux, hétérosexuels, étaient tellement lourds. Que forcément, avec la loi de la pesanteur, elle restait à terme.
Tandis alors, il y a Patrick Gardot, il y a un pan important de votre catalogue, de l'édition Gay Kitschkamp, qui s'appelle Décadence au pluriel, consacrée à la littérature. Et il y a quelqu'un qui vous est tout à fait cher, c'est Georges Eekhoud. On peut en dire quelques mots de Georges Eekhoud, romancier
belge. C'est plutôt cher à Mirande Lucien, qui a dirigé une collection chez moi, qui est la grande découvreuse, oui, de Georges Eekhoud, puisqu'on considérait que c'était quelqu'un qui aimait bien les voyous à Anvers, et qui est un personnage extraordinaire parce que il s'est pas considéré de, il s'est pas limité à baiser avec ses voyous, mais il en a décrit la vie. Et enfin, là, j'ai découvert, c'est une petite anecdote, j'ai découvert que le commissaire qui était dans une affaire, dans l'affaire de Georges Eekhoud où il a, enfin, c'était le premier roman homosexuel et donc il a eu un procès.
Donc Escale Vigor.
Oui, sur Escale Vigor.
C'est l'histoire de la fascination d'un prince dans une sorte de duché ou de oui. Féodalité oubliée
voilà,
du nord de l'Europe.
Voilà, ça c'est
le
premier roman. Pour mais je parlais surtout
les jeunes paysans.
Comme je parlais de voyous, les voyous de velours. Les velours, c'était velours. Les pantalons de velours qu'il portait. Donc il parle aussi la manière dont ces gens parlaient. Et bon, enfin, il a fait de la socio-anthropologie à partir de son désir de ces objets, quoi.
Alors, il y a une autre figure dont il faudrait parler, c'est Jacques Adelsvärd Fersen. Une biographie vient d'ailleurs de lui être consacrée aux éditions Séguier. Lui, c'est un personnage qui était, alors justement, emblématique de cette époque, comme Georges Eekhoud ou alors Jean Lorrain. C'était une autre grande figure de l'homosexualité belle époque, mais lui, qui est tombé, comme on disait, et qui a connu, donc qui a été traduit en justice pour l'organisation. Alors, tout de suite, la presse en a fait de messe noire. Nous sommes pas loin du là-bas d'Huysmans, donc la messe noire, le luciférisme. Oui. Était très à la mode. En définitive, c'est un homme qui organisait des tableaux vivants à l'antique.
Oui, oui, c'est, il a mis en scène son procès dans un livre qui s'appelle le...
En tout cas, les livres que vous avez publiés, c'est Le baiser de Narcisse et surtout Messe noire.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Lord Lilian.
Enfin, ce qu'on a appelé plus tard les balais bleus, quoi.
Voilà.
Oui, alors c'est très décadent. Alors, l'érotisme décadent est intéressant parce qu'il fait intervenir la mort, les meurtres, des assassinats, et puis des animaux. Et enfin, vraiment, c'est... Enfin, là, ce qu'on pourrait appeler maintenant toutes les perversions, voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus moraliste. Hein. Mais les autres... parce qu'à la même époque, on a des textes... Pédératie active et passive, par exemple. Excusez-moi, c'est vous qui devez choisir les titres, mais là, si vous parlez de l'érotisme fin de siècle et début 20e, c'est plutôt réaliste, pédératie active et passive. C'est plutôt, le riche monsieur ou le propriétaire avec les campagnards, et ça se passe à la campagne. Tandis que là, non, on est dans une sensibilité urbaine, donc décadente. Enfin, il n'y a pas de décadence sans métropolitain.
Alors, qu'est-ce qui est premier, selon vous? L'homosexualité a choisi la décadence pour arborer et illustrer son univers poétique et esthétique, ou est-ce qu'au contraire, c'est la décadence qui a poussé, peut-être, certains auteurs, certains peintres, vers l'homosexualité?
Pourquoi on va faire intervenir la dialectique?
Voilà. Christophe Bier.
Je peux pas vous dire. J'ai quand même l'impression que, si vous voulez, aujourd'hui, on parle de communauté homosexuelle. C'est une communauté sociologique. C'est une communauté politique. On va le voir aujourd'hui. Mais à l'époque, je pense que les communautés ne pouvaient pas choisir cette voie-là pour s'affirmer. Donc, évidemment, ce sont des bourgeois, des gens qui avaient les moyens, puis surtout qui avaient les moyens intellectuels et pour publier des choses. Donc Jean Lorrain, Fersen, tout ça, ce sont des personnes qui se connaissaient. Oscar Wilde, enfin, c'était une communauté internationale, sans parler de la mafia rose.
Hein. C'est une communauté qui devait aussi se cacher. Enfin, se cacher, elle pouvait y avoir des centres de police ou toutes sortes de répression de cet ordre. Donc, on peut concevoir que Adelsberg de Fersen organisait des tableaux vivants, certainement avec des mots de passe pour entrer chez lui. Et donc, c'est, en ce sens, c'est une communauté un peu secrète. Et c'est pour ça qu'elle a dû entraîner toutes sortes de fantasmes de la part des homophobes ou des pornophobes qui voyaient des sacrifices humains, certainement. Enfin, toute cette histoire de messe noire. Jean Lorrain a défendu, d'ailleurs, son ami Adelsberg de Fersen.
Céline.
Qui lisait ces livres? Est-ce que c'était des livres qui se passaient sous le manteau et qui étaient pour un public averti? Est-ce que ça avait un tirage un petit peu plus large? À qui ça s'adressait? Est-ce que c'était un entre-soi ou est-ce que ça se dirigeait quand même vers l'extérieur?
Alors à l'époque, les éditeurs et les libraires étaient assez proches, c'est-à-dire en fait c'était les libraires qui étaient éditeurs. Par exemple, le livre de Devaux, on le confisque chez un libraire, mais le libraire c'est l'adresse de l'éditeur. Et en même temps, il y avait bien une censure sur la presse, mais pas sur les produits imprimés, pas sur les livres. Mais
donc ça circulait, ça circulait pas mal.
Ça circulait, mais quand même en circuit fermé quand même. Si on va en Angleterre, par exemple, on parle de la France là, mais en Angleterre, Richard Burton s'est quand même bien débrouillé. C'est-à-dire, il faisait un cercle et il considérait que les livres n'étaient pas accessible au public, c'était imprimé pour la société. Mmh. Une société d'érotisme, je veux dire, pas la société en général. Privately printed, on disait.
Il y avait certains auteurs qui se faisaient éditer à Bruxelles.
Oui,
donc c'est le cas de Rachild avec L'Homme Vénus qui a été édité à Bruxelles, ce qui n'a pas empêché le livre d'ailleurs d'être poursuivi tout de suite. Il y avait aussi des procès, des procès pour obscénité, pour outrage aux bonnes mœurs.
D'ailleurs, je signale la parution d'une remarquable histoire de l'édition belge aux éditions Les Impressions Nouvelles, un travail très érudit où on trouvera présenté tout ce dont vous parliez, Christophe Beer.
Mauvais genre, François Angelier.
Mauvais genre qui reçoit ce soir, jour de Gay Pride, Patrick Cardon, l'animateur de l'association Gay Kitsch Camp, éditeur et savant éditeur de classiques théoriques et de fiction, de textes liés à l'homosexualité. Alors, il y a un texte que vous venez de publier, Patrick Cardon, je vous en remercie, puisque j'en attendais la parution depuis des années. J'en avais entendu parler en lisant des textes de Louis Massignon, l'orientaliste, qui a publié une célèbre prière sur Sodome, et qui cite ce texte de Richard Francis Burton. Alors, Burton, personnage légendaire de l'époque victorienne, l'homme des sources du Nil, le traducteur des Mille et Une Nuits, un personnage qui parlait des dizaines de langues et de dialectes, qui a conçu même un manuel de combat à la baïonnette, que même l'armée prussienne utilisa encore après sa mort, un personnage tout à fait fabuleux, et donc qui avait commencé dans la carrière, si j'ose dire, en proposant et en rédigeant pour ses chefs, notamment le célèbre Napier, qui était gouverneur d'une partie de l'Inde anglaise, un rapport, un mémo sur les bordels homosexuels, donc pas de Bombay, mais de Karachi. Et donc, Richard Francis Burton était passionné d'érotologie, mais de sexologie. C'est véritablement un homme qui a contribué à fonder l'anthropologie sexuelle à l'échelon vraiment planétaire. Et il a élaboré une théorie de l'homosexualité qui est contenue dans ce texte que vous avez édité, Patrick Cardon, la zone sotadique, puisque il soutient, j'en ai cité un extrait en début d'émission, que l'homosexualité est liée au climat. Nous en dire
oui,
un peu
en fait,
plus.
Parle surtout de géographie autour de la Méditerranée. Bon, évidemment,
enfin, ça s'étend quand même aux deux Amériques, c'est la Méditerranée
puis, c'est
au sens large.
En fin de compte, la zone sotadique. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est parce qu'il fait l'accent sur autour de la Méditerranée, parce qu'il s'intéressait beaucoup, en fait, aux musulmans indiens, à l'islam, hein, d'après ses expériences, ses aventures, et puis ses rencontres et les gens qu'il fréquentait. Et donc, vous voulez savoir ce que c'est que la zone sauterie?
Oui, voilà. Dites-nous en plus sur ce texte de Burton.
Donc, il y a une carte dans le livre, voilà, qui a été créée par un auteur de Wikipédia qui montre qu'effectivement, on ne connaissait pas tellement les États-Unis.
Oui. Mais oui, c'est, oui, parce que les deux Amériques figurent dans la zone.
Oui, oui, c'est vrai. Mais parce qu'on connaissait, on avait déjà des témoignages sur les Indiens, hein, et sur le troisième sexe chez les Indiens, etc. Donc en fait, effectivement, ça fait quand même le tour de la planète, mais au méridien, on va dire.
Et qu'est-ce qui, selon lui, générait l'homosexualité, si je veux dire, puisque elle est liée au climat. Donc le climat, de quelle manière le climat avait une force génétique sur l'homosexualité?
Qu'est-ce que vous voulez quand il fait chaud, hein?
Voilà, c'est ça, c'est lié uniquement à la canicule.
Non, vous n'aurez pas une réponse scientifique là-dessus, d'ailleurs, c'est pas très pris au sérieux, mais...
En tout cas,
c'est une vision, c'est la ligne kitsch de votre maison d'édition.
Faut pas exagérer, parce que bon, il a fait quand même des observations scientifiques sur ces pays-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit, mais enfin, comment il peut dire des choses pareilles? On a des témoignages aussi en Bretagne, etc. Mais enfin, si vous avez des témoignages contemporains, vous voyez bien que si vous allez, en Norvège, vous allez dans des endroits spéciaux pour rencontrer des gens, alors que si vous allez à Marrakech, eh bien, vous devez dire non. Non, à tous les coins de rue.
Avec justement c'est un texte qui se signale surtout par son extraordinaire érudition.
Oui,
c'est incroyable. Véritablement le bottin de toutes les citations ou mentions d'amour entre hommes depuis les origines gréco-romaines jusqu'à peut-être le 17e, mais même le 19e siècle. C'est très intéressant de voir où il est allé fouiller et trouver...
Parce que le départ, c'est presque rien, hein. C'est quand même... Les mille et une nuits qu'il a traduit de cette façon-là, d'une manière très érotique, mériterait une traduction... De tout le texte, il y a une vingtaine de volumes, alors que nous, on a choisi un tout petit, pas un petit chapitre, c'est à la fin des volumes, il veut expliquer pourquoi il met l'accent sur l'érotologie, et en particulier sur la pédérastie. D'ailleurs, ça s'appelle pédérastie qu'un Y en anglais, et c'est cette partie-là qui est connue dans le monde anglo-saxon sous la forme de la zone sotadique, et qui veut dire tout à fait la zone, enfin, sodomite.
Hein. Ça, tel
que Juan Goiti Solo a baptisé le Marais. C'était pour la Gay Pride que je disais ça.
La zone sotadique, donc, de Richard Francis Burton, Les Mille et Une Nuits, c'est donc chez Guy Kitschkamp. Alors, autre texte qu'on a prélevé et choisi dans le catalogue. Christophe Beer, les Fellatores ou les Fellators, alors tout est possible.
Les Fellatores, mœurs de la décadence d'un certain docteur Luise, alias Paul Devaux. C'est une attribution que nous devons à Pascal Piat, puisque le livre est dans les enfers. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe assez croustillant, car les Fellatores est un pamphlet homophobe, antisémite également. Et en définitive, il a été condamné pour obscénité. Donc, il y a effectivement tout un suc érotique dans ce livre, et c'est, je pense, la raison pour laquelle Patrick Cardon l'a réédité. C'est un livre qui date de 1888, texte extrêmement rare. À l'origine, il y a une bagarre avec l'auteur Rachild, qui en 1884 avait sorti L'homme Vénus, qui est tout de même le récit d'une femme habillée en homme qui a des amours avec un homme travesti en femme, et c'est même encore plus compliqué que cela. Et Rachild s'était moqué de Paul Devaux lors d'une conférence sur les bas bleus. Et Devaux, un an plus tard, écrit ce pamphlet. Alors, est-ce que c'est véritablement un pamphlet? Toute la question est là, parce que il prend un soin maniaque, une minutie extraordinaire à décrire les mœurs des homosexuels parisiens de la Troisième République, avec leur lieu de drague, notamment le café de la paix, qu'il appelle café de la guerre, de la gare, de la guerre,
de la
café
guerre,
de la
oui.
guerre. Et puis toutes les manies de ces hommes, notamment il y a un personnage qui n'aime rien tant que de sucer des jeunes garçons qu'il travestit en nonnes ou en petit abbé pour mieux les retrousser. Et la figure centrale de ce groupe de Fellatores, c'est donc évidemment la fellation, qui est un acte considéré comme infâme, L'auteur, le docteur Luise, utilise le terme de fellatores de façon assez discrète. Et à chaque fois, ça fouette un peu l'imagination du lecteur. Il utilise des allusions discrètes. On ne parle pas de sperme, mais des traces concluantes du fellatores sur son costume de cardinal. Et puis, il y a des trouvailles extrêmement crues qui font vraiment tout d'un coup mouche. Enfin, c'est assez extraordinaire. Il y a, à propos de ces jeunes hommes sucés qui finissent par être affaiblis à force d'être sucés, il parle de machine à gicler. Il l'utilise une seule fois et ça donne tout de suite, ça ouvre l'imaginaire. Ou alors on les appelle évidemment aussi des biberons. Et il y a des personnages complètement extraordinaires, notamment un russe, un marchand russe juif. Alors, effectivement,
Boyard.
Ivan Boyard. Il faut dire que le texte est succulent si on arrive à passer outre la dimension antisémite.
Surtout que la dimension antisémite en 1888 est forte, oui. Puisqu'on est 2 ans après l'apparition de la France juive de Drumont et quelques années avant celle de la libre parole. Donc on est en cœur de la naissance
l'antisémitisme d'opinion. C'est très net. Et en fait, Pour le pamphlétaire, tous les fellatores sont forcément juifs. Il faut être juif pour pratiquer des fellations.
On va écouter un extrait donc des fellatores.
Il considérait comme une victoire chacune de ses maîtresses masculines. Le détail suivant peut seul en donner l'idée. Sur une table fixée dans un pied de bronze doré se tenait droite et rigide une canne d'ébène couverte de chiffres d'argent et de monogrammes. C'était la canne des victimes. Elle se dressait au milieu du salon comme un phallus antique, obélisque couvert d'hiéroglyphes connus de lui seul. C'était le monument de triomphe qui rappelait constamment à ses yeux ses compagnons de libertinage. Les chiffres étaient placé sur 4 rangs pendant 80 cm. Le pommeau de la canne supportait le chiffre couronné de la première victime. 20 cm d'ébène attendaient de nouveaux chiffres. Ivan admirait sa canne. Il la contemplait avec orgueil. Ces 80 cm constellés de chiffres brillants représentaient une somme énorme de satisfactions éprouvées. Et il n'avait que 24 ans. Beau début promet suite heureuse. C'était chez lui une monomanie érotique. Il collectionnait les gravures obscènes, les photographies prohibées, les illustrations des livres de médecine spéciale et payait des dessinateurs pour exécuter des groupes d'acrobaties fellatoriennes dont il faisait lui-même les croquis. Son imagination, pervertie par les yeux, maintenait sa sensibilité dans une excitation constante. Il éprouvait des sensations à voir les objets les plus innocents. Les manches de couteaux, les étuis, les bougies d'un lustre. Dans la rue, il se pâmait devant les brancards de voitures, les timons d'omnibus, et s'écrasait dans la contemplation bestiale des réverbères. Enfin, les images les plus licencieuses ne valaient pas pour lui la vue monstrueuse de la colonne Vendôme. Chez lui, il s'exténuait aux seules pensées de la colonne. Et les hommes qu'il aimait le plus, qu'il recherchait, devaient posséder les qualités physiques qu'Oliba, la juive antique, exigeait de ses amants, c'est-à-dire ceux dont la chair était comme la chair des ânes et dont l'alliance était comme celle qu'on aurait avec des chevaux. Dans l'assouvissance quotidienne de sa honteuse passion, ses lèvres s'étaient hyperesthésiées et le plaisir qu'il ressentait à éteindre chez ses victimes l'orgasme qu'il avait provoqué dépassait les ivresses de l'amour. La conquête d'Arthur plongea le juif dans des extases séraphiques. Il admirait son espagnole beauté, son regard savourait chacune des perfections corporelles de cet homme. Il se promit d'idéale volupté. Alors, ils échangèrent des gages de leur passion, ils se forgèrent des noms d'oiseaux. L'immonde juif prit le nom de Bob et gratifia la belle Arthur du tendre sobriquet de Clapotis.
Voilà, lecture par Christophe Birne, un extrait des Fellatores. Effectivement, là, on trouve fusionné, j'ai deux figures qui vont être l'objet d'assaut et de persécution par l'extrême droite française jusqu'au régime de Vichy, Patrick Cardon, c'est-à-dire la fusion entre le juif et l'homosexuel. Deux ferments de décadence. Alors là, est-ce qu'on a la naissance d'une représentation, là, quelque chose de...
En fait, ce que je souhaiterais ajouter pour défendre ce livre qui, a priori, est indéfendable, c'est que le style littéraire de ce pamphlétaire, son obsession à revenir sans cesse sur les détails des Fellatores, on peut penser que dans son inconscient, il rêve peut-être d'être juif, parce que c'est la condition, peut-être à ses yeux, la seule qui puisse justifier le fait d'appartenir au clan des Fellatores. Il se rêve peut-être Fellatores, ou alors machine à gicler, on ne sait pas. C'est toute le
fantasme de l'auteur.
C'est une lecture moderne que l'on fait de ce texte de 1888, et c'est aussi, je crois, un exemple assez représentatif du travail que Patrick Cardon fait parfois avec ses textes de fin de siècle, c'est de les revitaliser, de les regarder sous un autre angle, d'en faire un peu notre propre objet de plaisir.
Patrick Cardon.
Ben moi, je suis très interrogatif parce que, comment dire, pour vous répondre sérieusement, je dirais bien la figure du juif et du pédéraste, c'est la même figure, c'est-à-dire c'est un étranger. Et on le traite de la même manière. Quand à Saint-Étienne, j'ai fait ma petite communication sur ce livre, la modératrice me disait « Mais ça vous gêne pas de rééditer une œuvre aussi antisémite ?» Et je lui ai répondu « Mais vraiment, naturellement, je lui ai dit « Mais c'est pas mon propos. » Parce que pour moi, là, juif et pédéraste, c'est vraiment pareil. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être développer cette histoire de parallélisme. Mais en même temps, ce qui est l'ambiance générale, c'est d'être antisémite. Je veux dire, on est antisémite par posture au 19e.
Alors surtout à cette époque-là, je répète, oui, c'est en plein air Drummond, là.
Oui. Dans le texte, il y a aussi des passages où l'auteur montre la persécution des homosexuels, objet de colibé, de risée, de violence.
Ah bah, tout à fait.
C'est un pamphlet qui finalement, est assez
un peu militant.
Oui.
On dirait un pamphlet militant.
Voilà.
Enfin bon, bah oui, bah, pour moi, c'est complètement Gekitschkamp, c'est-à-dire, oui. C'est un pamphlet. Enfin bon, je ne sais pas si c'est pamphlet, mais il y a une manière d'homophobie. Je veux dire, surtout les folles, quand elles parlent, elles disent « mais bien sûr, mais moi j'ai des femmes et des enfants, alors que c'est pas vrai, et on est dans la fiction aussi ». Enfin, on est dans l'art, on va dire ça comme ça. Alors c'est embêtant de dire ça pour l'antisémitisme et l'homophobie, mais bon, il y a une manière artistique de réagir.
Continuons notre progression dans le temps, et nous retrouvons maintenant en pleine République de Weimar.
Bye. Mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr. Oh, wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr. Auf Wiedersehen, mein Herr. Es war sehr gut, mein Herr. Und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr. Ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, you're better without me.
Es war sehr gut,
mein
Herr. Zaminelli, dans Cabaret de Bob Fosse, un grand moment de cinéma camp du Chesnay Céline.
Eh bien, c'est pas tout. Tout à fait, c'est presque là que je vous emmène, mais pas
voilà.
Tout à fait, puisque moi j'ai jeté mon dévolu sur un tout petit livre donc des éditions Gekitschkamp qui s'appelle Femmes lesbiennes de Berlin, un livre qui a été édité en 1928 par une certaine Ruth Margaret Rowling. Et alors cette femme était chroniqueuse dans des revues et des journaux littéraires. Elle a écrit un premier premier roman à l'âge de 35 ans sur l'histoire d'un poète et de sa muse. Mais c'est quand même ce livre qui fait que je crois que son nom est arrivé un petit peu jusqu'à nous, parce qu'elle n'a pas eu un grand destin littéraire par ailleurs. Il faut dire que la Seconde Guerre est arrivée là-dessus, et qu'étant lesbienne, elle n'était pas tout à fait dans le cœur de cible du régime. Mais alors, ce livre est comme un petit guide qu'on aurait pu vous mettre entre les mains, donc dans les années 28 et quelques, et qui vous permet de vous promener dans le Berlin de 1928 en passant de cabaret en cabaret. Alors il y a 14 clubs de femmes qui sont montrés dans ce petit ouvrage, et c'est tout à fait sociologique par ailleurs, parce que ça vous permet, cette femme vous décrit les lieux, elle vous décrit les populations, elle vous décrit aussi la manière dont les unes et les unes sont habillées, celles qui ont un monocle, celles qui sont habillées en garçon, cette fameuse coupe à la garçonne, les classes sociales aussi qu'il y a, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt à Montbijou plutôt qu'à Olala ou à l'Eldorado, le style de rencontre qu'on peut faire, le type de fête qu'il existe aussi, parce que évidemment la danse a un rôle très important. Enfin, des lieux où on peut danser entre femmes, où on peut fumer, où on peut boire. Est-ce qu'il va y avoir des spectateurs ou pas? Est-ce qu'il y a des voyeurs, des hommes qui peuvent rentrer dans ces pièces pour vous observer? Et puis, le style de musique aussi. Le jazz est très présent, le style de danse. Alors, il y a par exemple une danse que je ne connaissais pas qui s'appelle la danse du chemin de fer, qui est une sorte de tyrolienne qui dégénère, selon l'auteur, en sauvagerie. Et puis, tout ça est dit avec un certain sens du lyrisme. On a vraiment l'impression d'être à ses côtés, en train de mener une enquête. On est dans la rue, il y a une lumière qui s'allume au loin, la cloche de l'église d'à côté qui arrive jusqu'à nos oreilles. On frappe à la porte, on frappe une fois, deux fois, on rentre, la porte s'ouvre et on découvre à chaque fois ces lieux et ces ambiances. Donc c'est un très joli petit livre qui est très court, hein. Il fait une cinquantaine de pages et qui vous permet de faire une plongée dans le monde lesbien qui est tout à fait passionnant.
Donc ça, c'est une publication Gay Kids Camp, mais il y a également pour les amateurs un spectacle parisien.
Ah oui, alors qui serait pour le coup un petit peu en effet dans le prolongement, c'est pour ça qu'on y a pensé, qui s'appelle Berlin Cabaret, qui est un spectacle qui est mis en scène par Stéphane Druet, avec dans un des rôles principaux Marisa Berenson, qui est chère à votre cœur, François.
Oui, à tous les cinéphiles, tous les amateurs de Barry Lyndon et autres.
Et aussi chère au cœur d'Yves Saint-Laurent. Le principe est un petit peu le même, c'est à peu près la même période, si ce n'est que c'est toujours la République de Weimar, mais ça va vraiment là pour le coup jusqu'aux prémices de la montée du nazisme. Cette pièce accompagne la montée du nazisme et montre ce qui se passe dans un cabaret. Ça se joue au théâtre de poche de Montparnasse. Donc vous avez un peu ce même principe. Vous descendez dans une cave, vous arrivez dans une atmosphère assez confinée, avec des hommes très élégants, aux yeux fardés, ourlés de noir, qui vous accueillent, vous placent. Et là, vous assistez à un cabaret, mais avec des numéros. Il y a cette tenancière qui est donc tenue par Beresson, qui a un fils qui est un fils, une sorte de monstre à ses yeux, puisque c'est un homosexuel et qu'il est déguisé ou travesti en femme. Il y a le rôle du musicien, le rôle de l'écrivain, la musique, et tout ça c'est pour montrer comment ce que le nazisme petit à petit a essayé de tuer et d'enfermer ce type de population, en sachant que le musicien et l'écrivain sont tous les deux juifs, donc on retrouve cette assimilation de ceux qui sont condamnés, les juifs et les homosexuels.
Au théâtre de poche à Paris jusqu'à...
Alors, jusqu'au 15 juillet, mais notez qu'il va y avoir une nouvelle petite ressucée. Ce sera le 15 novembre.
Une rebibronnée.
Au 6 janvier 2019. Donc, ce seront les prochaines dates, parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place pour le moment. Et ça se joue au théâtre de poche Montparnasse à Paris.
Merci Céline, merci Patrick Cardon, merci d'avoir été
merci
ce soir
vous,
l'invité de Mauvais Genre pour les 30 ans de Gay Kids Camp, et puis 20 ans de Mauvais Genre, c'était durant toute l'année. Je signale également aux éditions Humus, dont nous avons parlé souvent, Elisabeth Proulx vient de sortir Les Saintes de l'Abîme, magnifique volume de photographies de ses méditations sur bataille et les zones de la chair infernale. Je signale qu'elle aura une exposition à Vézelay à partir du 21 juillet. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pollery, Olivier Dupré, Sam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Sixtine Aubert, Élise Lépine, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Fausto Fazulo, Paco M'Tielman, Antoine Guillot, Hubert Prolongeau, Jean-Luc Rivera, Christophe Bire et François Jeunier, nous sommes au grand complet. Vous remercie à la fois d'avoir suivi cette émission à propos de Patrick Carnon et de Gekitschkamp et d'avoir été pendant toute cette année fidèle à Mauvais Genre. On se retrouve au mois de septembre, bien évidemment, après deux mois d'atroces séparations. Mais nous serons heureux de vous revoir. On se revoit donc en septembre. Vous écouterez bien évidemment la grille d'été de France Culture. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
So heiß noch immer lieb, obwohl sie weiß, sie wird der Hölle nicht entgehen. Ich bin ein Fremder, den man hasst, und dessen Schnauze dem nicht passt, der immer Angst vor morgen hat. Ich meine Kleine fange ich und halte dich und trinke mich an deinen 20 Jahren satt. Ich bin dein Prinz und bin dein Knecht, wie du mich willst, es ist mir recht, nur liebe mich und du wirst sehen. Wenn wir die Zeit zur Ewigkeit, der Raum ein Meer von Seligkeit, vor dem wir beide staunend stehen. Lass uns in die